Paru en 2021 dans le ventre du Congo, nous plonge au cœur de l'exposition universelle et internationale de Bruxelles en 1958. On y retrouve l'œuvre coloniale dans toute son ignominie. L'auteur raconte des conditions de détention des Congolais exhibées juste 2 ans avant l'indépendance du pays par les colons dans les eaux humaines. Blaise Ndala est aujourd'hui parmi nous pour converser sur une histoire calquée de la réalité. On l'écoute.
Bonjour Monsieur Blaise Ndala, comment ça va ?
Je vais bien, merci. Bonjour et bonjour à tous ceux qui nous écoutent.
Qu'est-ce qui vous a donné le déclic d'écrire sur une période précoloniale avec votre roman « Dans le ventre du Congo » ?
Alors, ainsi que je l'ai dit à diverses occasions, parce que le livre est sorti, ça fait bientôt 2 ans. Il est sorti en janvier 2021. Ce qui m'a amené à écrire ce livre, le déclic, comme vous dites, est parti d'une découverte que j'ai faite en 2003. Je venais d'arriver en Belgique en provenance du Congo, la RDC. Je venais faire mes études de droit et là, je suis tombé sur la découverte de 7 tombes des Congolais qui avaient été inhumées près du musée royal d'Afrique centrale de Tervuren, qui se trouve à peu près de Bruxelles. Et c'est des Congolais qui avaient été autrefois exposés dans un zoo humain. On l'appelait à l'époque un village africain. Et ce village avait eu lieu lors d'une exposition universelle que la Belgique avait abritée en 1897. Et donc, ces Noirs, ces Congolais, y avaient été exposés comme des sauvages pour justifier en quelque sorte l'importance, la pertinence du projet colonial, de la mission civilisatrice telle que la Belgique la menait en Afrique centrale. Donc c'est cette découverte assez bouleversante qui va m'amener à faire des enquêtes, des recherches dans les archives pendant mon séjour en Belgique et bien plus tard, même quand je m'immigrerai au Canada. Et une dizaine d'années plus tard, ça aboutit donc à ce roman qui révisite cette période coloniale au cours de laquelle ces actes avaient été posés, mais également une période précoloniale, parce que l'un des personnages centraux dans mon roman est une descendante d'une dynastie traditionnelle congolaise qui existe depuis 1852, donc on parle pratiquement d'une période qui est antérieure à la colonisation belge au Congo. Voilà plus ou moins comment ce projet est né.
Pourquoi est-ce que vous choisissez en fait un titre si métaphorique, par exemple, dans le ventre du Congo ?
Parce que la métaphore, comme vous dites, est une manière de se singulariser. Quand on est un auteur, on a différentes ficelles dont on se sert pour attirer l'attention. Dans ce cas-ci, dans un titre, ce qu'on recherche le plus souvent, c'est quand même d'attirer l'attention, de créer une sorte d'ébranlement, une sorte d'interrogation, d'expectative dans l'esprit d'un lecteur potentiel. Donc cette métaphore me permettait de créer ce moment où le lecteur pourrait se demander de quoi il en retourne, mais beaucoup plus substantiellement, quand on lit le roman, et je pense que ça ne vous a pas échappé, il y a une série de choses qui relèvent de la mémoire presque perdue, presque effacée, à la fois des Congolais et des Belges, que je voulais remettre un peu sur la table, sur le tapis, et d'utiliser cette image de quelque chose qui sort du ventre, de quelque chose dont on accouche, d'une réalité ou d'une part de l'histoire dont on accouche littéralement, qui a été laissée dans les limbes, comme je le disais tantôt, ben, ça peut s'expliquer, ça peut se dire plutôt dans la forme de quelque chose qui est enfoui dans le ventre et qu'on cherche à mettre en lumière.
Oui, parce que dès les premières pages en fait de votre roman, vous faites une chronologie de l'ex-Congo Belgique. Ça sera en fait des thèmes qui sera abordés au salon du livre afro-canadien, la colonisation. Selon vous, est-ce que vous pensez que le passé peut passer lorsqu'on fait référence à la colonisation et surtout dans une terre canadienne où il y a aussi eu la colonisation?
Ça c'est toute la question. Là vous posez toute la question du roman. Hein. Le roman se résume pratiquement à cette question-là. Et d'ailleurs c'est pour ça quand on ouvre le roman, on a en exergue ces mots de James Baldwin, qui est un écrivain américain qu'on ne présente plus. Nous portons notre histoire avec nous. Nous sommes notre histoire. Mon roman part de la prémisse que dans ce que nous vivons, dans ce que nos sociétés, aussi bien au Congo, en Belgique, au Canada, puisque vous évoquez la colonisation au Canada, vivons actuellement, ben, il y a forcément une part qui est de l'ordre du legs, de l'héritage de cette période coloniale. Alors est-ce que ça peut passer ? Est-ce que ce que ça charrie, tout ce que cette mémoire contient, tout ce dont cette mémoire est saturée peut faire partie du passé, de telle sorte qu'on peut s'en détacher sans que certaines pesanteurs continuent à nous poursuivre, sans que certains fantômes de cette période continuent de nous hanter. Alors ça, c'est toute la question qui est dans le roman. Mmh. Je laisserai quand même un certain suspense, une certaine part de suspense à ce qu'ils lisent pour savoir comment le roman tente d'y répondre. Mmh. Mais en dehors du roman, je pense que ça dépend beaucoup des actes que nous posons, de la manière dont nous embrassons cette histoire, de ce que nous en faisons, de manière dont nous répondons aux questions qui continuent d'être soulevées par cet héritage-là, par cette histoire, par ce qui a été fait, vécu, subi ou imposé. C'est en fonction des réponses que le temps donne, que nous donnons à travers le temps plutôt, il faut le dire de cette manière-là, réponse que nous donnons à travers le temps à cette équation de la mémoire qui continue de perdurer tant que nous vivons, ben c'est à l'aune des réponses que nous donnons que nous saurons si ce passé est bel et bien passé ou si, comme le dit d'ailleurs un poète dont on trouve ses paroles à l'entrée du musée d'Afrique centrale, qui est maintenant le Musée d'Afrique à Bruxelles, pour retourner à Bruxelles, là où tout a commencé, à Ter Vuren, précisément, ben, ce poète belge dit « tout passe sauf le passé ouais. ». Donc c'est vraiment dépendamment des réponses que l'on peut donner comme société à ces questions-là, que l'on saura si on est parvenu à solder les comptes du temps et de faire passer les passés, ou est-ce qu'on est toujours englué dans ce passé de telle sorte qu'il faille encore investir des efforts pour s'en dépêtrer.
Bien dit. En tout cas, Blaise, vous faites partie des auteurs qui seront présents au salon du livre afro-canadien. Est-ce qu'on peut avoir un petit avant-goût, par exemple, de ce que vous allez offrir à la communauté pendant cette semaine?
Alors, ce qui est sûr, c'est que j'ai été programmé pour une séance des dédicaces de mémoire entre 14h et 15h dimanche. Donc à ceux qui seraient intéressés à se procurer une copie de Dans le ventre du Congo, ou même ceux qui l'ont déjà et qui voudraient passer pour discuter ou pour se faire des livres indédicats, je vais le faire avec plaisir. Donc je serai dans cette plage de temps. En dehors de ça, il m'a été proposé également une table ronde avec deux autres auteurs. Il faudrait regarder dans la programmation, je ne voudrais pas me tromper, parce que ça m'a été transmis assez récemment, mais en tout cas, je ferai partie d'une table ronde avec deux autres auteurs pour discuter sur la question justement à la fois de la mémoire coloniale et des possibilités ou non des réparations sur ce que nous venions d'évoquer. Ouais. Alors pour ça, il faudrait être là pour nous écouter et se faire aussi sa propre religion, parce que personne n'a la science infuse sur ces questions qui sont extrêmement sensibles, délicates et complexes. Nous apporterons notre part dans la réflexion et puis ceux qui seront là et qui voudront faire partie de la discussion auront la possibilité à la fois de poser des questions et d'intervenir avec des commentaires si ça leur chante.
Tout à fait. En tout cas, Blaise Ndala, vous avez étudié en Belgique, vous êtes installé à Ottawa en 2007. Est-ce que vous trouvez que dans la région, c'est un peu compliqué d'avoir des ressources ou du support pour aider et pousser les écrivains?
Non, je ne crois pas. Très honnêtement, je ne pense pas que ce soit si difficile. Il faut juste être un temps soit peu informé et frapper aux bonnes portes. Je pense par exemple à des structures qui existent, en commençant par celle dont je suis membre moi-même, l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français, l'AOF, qui a un service d'accompagnement aux jeunes auteurs. Pas que jeunes d'ailleurs, hein. Donc à quiconque voudrait bénéficier d'un accompagnement dans le travail d'écriture, l'AOF offre différents services. Il y a l'association de l'autre côté de la rivière, des auteurs et auteurs de l'Outaouais, il y a la Maison de la littérature qui est à Gatineau, qui a été créée nouvellement. Il y a les Salons du livre de l'Outaouais, dont j'étais président l'année passée, donc j'ai pu à cette occasion en apprendre davantage sur différents programmes qui sont offerts par ce magnifique salon, et notamment des programmes en direction de jeunes. J'en ai parrainé quelques-uns, trois l'année passée, de jeunes, du secondaire, qui s'était porté candidat pour un projet collectif des textes sur l'environnement, mais je n'en dirai pas plus parce que ça sera annoncé publiquement dans les semaines qui viennent. On a pu les accompagner, mes pères et moi. Donc c'est dire que les ressources sont abondantes, il y a une communauté littéraire et une scène littéraire assez vivante dans la région. Donc si on s'informe un tant soit peu, si on prend part aux activités littéraires du genre de celles qui nous attendent cette fin de semaine, on finit par trouver la bonne porte et le reste se fait avec de la volonté et avec les ressources que l'on arrive à mobiliser.
Ottawa nous écoute. Blaise, est-ce que vous avez un dernier mot à leur dire, que ce soit sur le Slack ou même sur vos romans? Qu'est-ce que vous voulez leur dire pour finir?
Pas sur mon roman, puisque je leur ai donné des premiers romans, je leur ai donné rendez-vous, donc ceux qui viendront auront le loisir de pouvoir en discuter plus longuement avec moi. Mais en tout cas, à tous les autres, je ne peux que leur demander encore une fois de rester arrimés à la littérature et ces grands navires qui abolissent les frontières et qui nous amènent partout, les obstacles, partout où nous pouvons aller sans être gênés par quelques obstacles physiques, matériels, ainsi de suite. C'est le pays quand même de l'imaginaire où aucun passeport, aucun visa ne requis. Rendez-vous en pays des littératures, tout genre confondu, roman, prose, poésie, théâtre, on n'a que l'embarras du choix. Et les librairies, les bibliothèques que l'on compte en grand nombre dans la région sont là pour ça. N'hésitez pas à voyager avec nous, avec les auteurs d'ici et d'ailleurs.
Merci d'avoir répondu à nos questions.
C'était avec plaisir.
C'était vos informations présentées par Yasmina Dagri dans le cadre de l'initiative de journalisme local.